c'est pas parce qu'on s'est pas assez fait expliquer pourquoi qu'on est en Afghanistan. C'est, on comprend très bien les enjeux, c'est parce qu'on s'y oppose radicalement.
Les massacres que les soldats onisiens ont commis contre le peuple haïtien, surtout le peuple des bidonvilles.
Ce qui arrive, c'est que ça permet au gouvernement canadien de détenir quelqu'un sans charge, sans accès à la preuve.
Les questions de base qui définissent ce conflit. Ce conflit, c'est avant tout un conflit sur la terre.
Vous gardez nos acquis sur la question de l'avortement. Alors, c'est pour ça que je suis avec ma fille, la Delphi, qui est la relève. On continue.
Queremos mandar un saludo para los radioescuchas de parte de los zapatistas.
Bonjour et bienvenue à une nouvelle émission de En bas à gauche. Il est 9h du matin, vous êtes sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM. Alors, nous sommes en compagnie de Blandine, Nicolas et Blandine de Blandine. Alors, aujourd'hui, En bas à gauche, Nicolas nous propose de vivre avec
en ce moment en direct avec Gabriel du Centre social autogéré. Gabriel, bonjour.
Ah, bonjour. Allô?
Allô?
Ah, salut.
Alors, Gabriel, vous faites partie du Centre social autogéré. Est-ce que vous pouvez nous expliquer premièrement un peu c'est quoi ce projet-là?
Ben, en fait, le projet du Centre social autogéré, il est apparu dans le quartier au moment où on a constaté qu'on avait quand même beaucoup de projets, mais pas d'endroit pour les réaliser. En fait, c'est toujours le problème de trouver un espace qui... toujours payant, effectivement, dans ce cas-là. Donc, le centre social autogéré, c'est de... Ben, le but, en fait, de créer un espace libre où nos projets vont pouvoir se réaliser, ben, pour nous, en fait, pour les gens du quartier, pour les besoins qu'il y a là, et par nous, justement, donc, sans aucune contrainte extérieure et sans... sans avoir d'ingérence municipale, gouvernementale ou privée dans ces projets-là.
OK. Justement, par rapport aux espaces, à la liberté des espaces qu'on peut avoir pour la population, c'est quoi qui l'empêche, en fait, d'être disponible à ces espaces-là?
Ben, dans le quartier, en ce moment, on voit une gentrification quand même importante. Donc, déjà, un prix des loyers qui augmente énormément, un manque d'espace. Et il y a énormément de... soit de terrains vagues ou d'usines abandonnées ou de bâtiments vacants comme ça qui sont, qui appartiennent à des intérêts privés pour l'instant. Et puis, ça se développe énormément en condos en ce moment. un truc comme ça. Alors, il n'y a pas... Il n'y a vraiment aucune visée pour libérer ces espaces-là pour les citoyens. Donc, d'où la nécessité, en fait, de se mobiliser pour avoir un de ces espaces.
Exactement. Puis j'imagine justement qu'à Pointe-Saint-Charles, c'est quelque chose qui est particulièrement important parce qu'on parle quand même d'un quartier populaire où les gens qui vivent sous le seuil de pauvreté sont quand même, il y en a quand même beaucoup. Puis justement, quand on parle de gentrification, c'est un problème majeur qu'on rencontre parce que ça fait augmenter le prix des loyers puis le prix de toute chose qu'on veut utiliser qui est immobilière. Puis justement, le CSA, le Centre social autogéré de Pointe-Saint-Charles, ça fait quand même un bout que vous travaillez là. Est-ce que tu peux nous faire un peu une petite histoire de ce que vous êtes en train de faire depuis 3 ans?
Oui, ben le projet est lancé depuis 4 ans, mais effectivement, ça fait 3 ans qu'on travaille activement dans le quartier. On a lancé le projet avec une grande fin de semaine d'activité il y a 3 ans. Puis depuis, ben on a continué à avoir en fait nos activités, mais toujours d'une manière itinérante, dans des locaux prêtés par des groupes et en fait à l'extérieur, sinon littéralement dans la rue. Et puis bah tout ça a convergé en fait vers le printemps 2009 où on a occupé un bâtiment en fait où le centre social autogéré s'est installé sur les bords du canal Lachine dans une usine de chandelles abandonnée en fait qui va être transformée en condo. Donc en fait ça a pas duré là. La police nous a expulsés assez rapidement. Et puis depuis, ben voilà, on est encore itinérant et puis on continue à en fait toujours à mobiliser pour faire nos activités, en fait, dans le but en ce moment d'avoir en fait on vise un nouveau bâtiment qui est le bâtiment numéro 7 sur les terrains du CN qui vont être développés où il va y avoir énormément de construction de condos justement autour aussi et de sur d'autres projets. Alors nous on revendique maintenant en fait l'obtention de ce bâtiment-là dans tout le projet qui va être développé pour la communauté. Donc, c'est un peu là que le centre social est rendu, en fait.
OK. Puis, juste pour nous expliquer un peu, c'est quoi qui s'est passé avec les terrains du CN? En fait, ça a été vendu à une personne, un homme qui fait du développement immobilier. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu qu'est-ce qui s'est passé, comment ça s'est vendu, puis c'est qui cette personne-là?
Oui, ben absolument. En fait, tous les terrains du CN appartiennent à Vincent Chiara et au groupe MAC, en fait, qui avait obtenu ça... pour la somme $1, en fait, à l'époque où l'Auto-Québec voulait développer le casino sur les terrains avec le site. Mais bon, comme on sait, le projet est tombé à plat et puis lui s'est ramassé avec tous ces terrains-là et qui sont qui sont gravement contaminés. Donc ça a pris beaucoup de temps avant qu'il y ait un projet qui se trouve pour les terrains, parce que c'est quand même un gros truc de décontaminer le tout, en fait, puis de construire ça. Et puis...
À partir de là, les terrains ont été concédés à Vincent Chiara. Ils ont été concédés par la ville. À combien, à peu près?
Combien, tu veux dire, le coût des terrains?
Ouais.
Le coût des terrains, c'est $1 plus la décontamination, là, qui est évalué, je pense qu'il avait évalué ça à 20 millions de dollars, quelque chose comme la décontamination complète des terrains. Puis il y a une partie qui a été expropriée par l'AMT pour ses ateliers de réparation de trains de banlieue, entre autres.
OK.
Donc, que le gouvernement a pris.
OK. Puis c'est ça, le quartier, en fait, dont plusieurs groupes communautaires, dont le centre social autogéré, veulent la récupération du bâtiment numéro 7. Puis justement, par rapport à ça, il y a plusieurs événements qui se sont passés dernièrement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu où en est la situation par rapport à la récupération du bâtiment numéro 7, qui est un des bâtiments sur le terrain du CN?
Ouais, ben effectivement, il y a... Depuis un an, il y a un comité qui s'appelle le comité numéro 7 qui regroupe beaucoup d'acteurs communautaires du quartier, dont le centre social autogéré, la fonderie Darling, puis la table de concertation des groupes du quartier, qui se mobilise en fait pour avoir le bâtiment. Ce comité en fait est en train de négocier un bail avec le propriétaire pour avoir l'obtention gratuite du bâtiment pendant 5 ans. Nous, en fait, le centre social autogéré et le comité numéro 7, on revendique par contre l'obtention gratuite du bâtiment après ces 5 ans-là et la garantie qui va être cédée en fait à nous, parce que pour l'instant, on n'a pas cette garantie-là. Donc, en fait, on continue à mettre de la pression en fait sur les élus, sur le promoteur en fait, et sur tous les acteurs. Donc, dans cette optique-là, ce soir, on organise un concert et une manifestation devant la mairie d'arrondissement du Sud-Ouest au 815 Bel Air, tout près du métro Lionel-Groulx, pour, en fait, comme on dit, presser le citron, en fait, presser les élus de mettre de la pression sur le propriétaire et sur le promoteur, en fait, pour accélérer, en fait, la signature du bail, qui est, en fait, un prérequis au développement des terrains, puisque, en fait, l'arrondissement, sous nos pressions, on finit par, en fait, obliger le promoteur à céder le bâtiment à la communauté si il veut signer un accord de développement pour ses terrains, pour pouvoir développer, en fait.
Donc, ça, c'est ce soir. Est-ce que tu peux nous rappeler les lieux?
Donc, c'est ce soir, à partir de 18h, au 815 rue Bel Air. C'est juste à côté du métro Lionel-Groulx.
Okay. Oh. Puis, vendredi, il y a une autre activité qui se passe justement aussi pour le Centre social autogéré.
Oui, effectivement. En fait, c'est le Centre social et le bâtiment, le comité bâtiment numéro 7 qui organise en commun une activité artistique devant le bâtiment 7 qui va être suivie d'une marche et puis d'un spectacle dans une salle à Pointe-Saint-Charles, en fait. Donc, pour vendredi, le rendez-vous, il est à 19h devant le bâtiment 7. Qui est au coin des rues Sainte-Madeleine et Lebert, complètement dans le fond de Pointe-Saint-Charles.
OK. Puis si on va avoir plus d'informations par rapport à ça, j'imagine qu'on peut aller sur le site du Centre social autogéré. Est-ce que tu peux nous donner l'adresse Internet?
Oui, parfaitement. C'est le www.centresocialautogéré.org.
OK. Ben, merci beaucoup. Puis là, mettons, une fois qu'on va avoir, si on peut réussir à récupérer le bâtiment, ce qui n'est pas encore fait, là, c'est qu'est-ce qui va être développé exactement dans le Centre social autogéré?
Pour l'instant, il y a toutes sortes de projets. En fait, l'idée d'un café-bar pour faire, en fait, pour faire des spectacles, parce qu'on manque d'activités culturelles dans le quartier, ça, c'est un truc qu'on réalise, en fait, énormément. En fait, une cuisine collective, ce qui est un projet assez présent, un atelier de réparation de vélo, par exemple, ou on pourrait dire des ateliers pour artistes, des locaux de répétition pour les musiciens, une garderie autogérée, quoi. Et, en fait, tous les projets qui pourraient être considérés utiles par les gens, oui. Comme c'est des projets, en fait, qui doivent être réalisés par nous et pour nous, en fait, ça vient avec les besoins le besoin des gens directement. Donc, il y a énormément de choses qui pourraient être faites.
Donc, une fois que les bâtiments seraient récupérés, il y aurait une espèce d'assemblée pour être capable de déterminer ce que la population du quartier veut mettre en place.
Ouais, ben en fait, ça se fait aussi avec l'initiative personnelle. Là, c'est comme ça, c'est un peu dans la philosophie d'action du Centre social autogéré, d'y aller par l'initiative personnelle, mais gérée toujours en assemblée générale, là, considérant que c'est les utilisateurs en commun qui vont décider de la façon dont leur espace va être utilisé.
Okay. Puis pour terminer, pour toi, qu'est-ce que ça représente la possibilité d'avoir un centre social comme ça dans ton quartier?
Ah, ça représente la concrétisation de 4 ans de lutte, hein, pour moi. Mais en fait, je trouve ça extrêmement important. Justement, comme je l'ai dit tout à l'heure, on manque d'un endroit culturel, juste d'un endroit pour se rassembler, d'un endroit où aller quand on veut sortir de chez soi. Puis qu'on veut pas nécessairement sortir du quartier, donc un endroit pour se retrouver, comme c'est un endroit où on n'est pas nécessairement obligé de dépenser pour aller, là, qui est pas un... Je dirais qu'il n'y a pas de visée commerciale non plus. Puis bref, un endroit où tout le monde peut se sentir bien.
OK. Ben, Gabriel, merci beaucoup. Puis donc, à ne pas manquer ce soir une manifestation pour presser le citron pour pouvoir avoir l'obtention et la réalisation du bail gratuit pour 5 ans pour le Centre social autogéré. Alors, je te souhaite une super bonne journée.
Ben, merci.
Puis à bientôt.
Ben, à bientôt à toi. Une journée.
Alors, on est avec Gabriel du Centre social autogéré, un projet de plus de récupération de bâtiments, un mouvement qui est quand même présent un peu partout à travers le monde et qui a comme objectif, en fait, de désaliéner l'utilité privée des bâtiments pour lui rendre une utilité sociale et donc construire socialement notre société à partir des espaces et des ressources récupérées. Alors, vous êtes à CKUT 102.3 FM et on continue avec l'émission En bas à gauche.
Les élus rassemblés. rassembler tous à l'heure au parlement. C'est rare, faut l'avouer, les poules ont avalé des dents. Soyons originaux, dit le premier ministre entrant. Les mensonges électoraux, faut les faire oublier maintenant. La question est, comment peut-on les prendre pour des caves sans qu'ils s'en aperçoivent, les déguiser en zouaves et leur faire croire qu'ils ont l'air importants ou qu'ils sont braves. De promesses, on les gave. Puis on forme un gouvernement. Les médias affairés à époustoufler les gens s'assemblent pour trouver un fait divers insignifiant. On prend un potin, un sondage, on en fait un potage rempli de sévices en images, ça se vend davantage. La question est, comment peut-on les prendre pour des caves sans qu'ils s'en aperçoivent, les déguiser en zouaves et leur faire croire qu'ils ont l'air importants ou qu'ils sont braves. Montrez-leur ce qu'ils savent et ils vous seront reconnaissants. Voici rassemblés, citoyens, bonnes gens, ensemble à se demander si pris pour qu'on est content, mais qui croit l'autre imbécile et souvent imbécile pourtant. Si la ruse est facile, pourquoi j'en ferais pas autant? La question est, comment je pourrais vous prendre pour des caves sans que personne s'aperçoive que je vous déguise en zouave et vous faire croire que vous êtes important, que vous êtes brave, tout comme les betteraves. Faut vous cuisiner lentement.
Vous venez d'écouter Stéphane Côté de sa chanson « Les caves » sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM. Vous êtes en compagnie de l'émission « En bas à gauche » et nous poursuivons avec la chronique culturelle.
En bas à gauche, chronique culturelle.
Sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM, vous écoutez en bas à gauche et c'est l'heure de la chronique culturelle. Alors pour la chronique culturelle, un livre pas nécessairement récent, mais toujours aussi inspirant, en direct du couloir de la mort, un livre écrit par Moumia Abou-Jamal aux éditions La Découverte avec une préface de Jacques Derrida. Comme son nom l'indique, c'est un livre qui a été écrit depuis les couloirs de la mort. Donc la petite introduction du livre, c'est la mobilisation internationale n'a pu empêcher l'exécution de Odell Burns. Il reste toujours dans les couloirs de la mort un condamné dont les États-Unis ne savent s'ils doivent appliquer ou commuer la peine. Abou-Jamal, qui est un journaliste, écrivain, est condamné à mort. C'est un noir américain qui attend depuis 20 ans, en fait plus maintenant, la révision de son procès. Alors, il doit ce répit et sa survie à une espèce de liberté paradoxale. Il écrit. Donc, le fait que Moumia Abou-Jamal, donc qui est en prison depuis les années 80, soit un écrivain, utilise comme médium la radio. Il y a de nombreuses émissions de radio qui a fait enregistrer depuis la prison et qu'il utilise tous les petits espaces. Alors c'est pas des espaces qui lui ont été donnés volontairement, c'est des espaces qu'il a grappillés, qu'il a gagnés petit à petit pour écrire, diffuser et continuer à être vivant en fait. Et toute l'analyse qu'il nous partage dans ce livre là, c'est le fait que le fait d'écrire, le fait de continuer à avoir une voix en direct du couloir de la mort, fait qu'il n'est plus dans ce couloir que physiquement et que donc il existe encore dans la société, et c'est pour ça que la peine n'a pas été exécutée en fait depuis tout ce temps, et que les présidences se succèdent et qu'il n'est jamais convenable ni de le gracier ni d'exécuter la peine. Alors même si, notamment récemment, il y a 2 ans, avec l'élection de Barack Obama, certaines personnes espéraient un petit changement par rapport à sa situation, comme la situation de nombreux autres militants pour les droits civiques des Noirs américains qui sont encore en prison aujourd'hui aux États-Unis. Donc, en direct du couloir de la mort, c'est pas l'histoire de la vie de Mumia Abou-Jamal. En fait, c'est sa vie de journaliste via des chroniques. Alors, c'est des chroniques de presse quotidienne qui tantôt concernent la vie des prisons américaines et dévoilent les mécanismes du système tout entier. Et il fait aussi une critique qui s'adresse aujourd'hui directement à l'actualité politique des États-Unis. Alors, il y a des critiques du gouvernement Bush Junior, il y a des critiques actuelles de la brutalité policière qui est ce qui est documenté. Donc, il continue d'être journaliste à l'intérieur des murs. Donc, 3000 prisonniers attendent actuellement une mort programmée dans les prisons américaines sans véritable espoir et dans des conditions de détention extrêmement préjudiciables. En attendant quelquefois depuis donc plus de 20 ans une mort qui est inexorable. Et il faut savoir que les conditions donc que nous décrit Mumia sont plutôt intenses. On se demande comment il lui reste le cœur d'écrire. Ils ont juste à l'occasion 2 heures de sortie de cellule par jour, donc depuis plus de 20 ans, dans des cellules qui font 2 mètres par 3. Et surtout une des interdictions les plus déshumanisantes, disons, là, qui est imposée aux gens dans le couloir de la mort et dont Mumia parle beaucoup, c'est la question de l'interdiction du contact physique. C'est-à-dire que même lorsqu'il y a des visites ou en aucune circonstance, les condamnés à mort n'ont le droit à un contact physique. Alors c'est comme une façon de les retirer de leur humanité, de les retirer de leur corps petit à petit. Et beaucoup ce rapport au corps en fait dans la prison et comment rester actif à l'intérieur de son corps permet de pas laisser envahir cette coupure là. Donc chaque année, il y a des rapports qui sont amenés par de nombreux groupes comme Amnesty International qui laissent planer aucun doute sur le système carcéral américain et surtout les couloirs de la mort. Puis c'est une discrimination aussi. Faut voir qu'il y a une différence entre qui se retrouve dans les prisons et qui se retrouve dans les couloirs de la mort, notamment les Afro-Américains qui représentent 11% de la population américaine, représentent 40% de la population dans les couloirs de la mort. Alors un petit, il y a quelques phrases connues de Mumia Abou-Jamal, notamment « Je vous écris de la prison d'État de Huntington dans le centre de Pennsylvanie, le plus grand couloir de la mort. La litanie des chiffres, la répétition du livre ne change rien, l'horreur du constat et de ses implications politiques. Dans le couloir de la mort, le monde est plus noir que partout ailleurs. Les Africains américains représentent 11% de la population nationale, mais constituent 40% de la population du couloir. Et les personnes accusées d'avoir tué des Blancs ont 4,3 fois plus de risques de mourir que celles accusées d'avoir tué un Noir, ce qui signifie que pour 11 personnes accusées du meurtre d'un Blanc, 6 n'auraient pas été condamnées à mort si la victime avait été Noire. C'est le genre d'information que vous pouvez retrouver dans le livre de Mumia Abou-Jamal. Alors ce livre-là aussi commence avec une introduction qui est inspirante et qui donne envie d'aller au travers, qui est le simple fait que je sois en train d'écrire et le simple fait que vous soyez en train de me lire prouve l'échec de la tentative du système carcéral. Donc c'est un petit cours d'histoire avec des coupures de presse en fait en quelque part rédigé par Mumia Abou-Jamal. Alors je vous recommande ce livre en direct du couloir de la mort, Mumia Abou-Jamal, la découverte, avec une préface de Jacques Derrida et aussi toutes ces autres écrits et audios que vous pouvez retrouver un peu partout sur Internet. C'est ce qui conclut notre chronique culturelle sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM.
Derrière le statut, le vêtement, la couleur de peau, n'est-ce pas qu'on est tous semblables? Les mêmes préoccupations: qui suis-je? Où vais-je? Que n'ai-je? Même tilt, même thème.
C'est pas exagéré de dire que je suis mort, je suis allongé là, même le sol, et je me demande encore
pourquoi ne m'aimaient-ils pas? Pourquoi est-ce qu'ils me regardaient tous comme ça? Les policiers diront que le coup est parti tout seul, que je me débattais, quoi. C'était censé être un simple contrôle parce que sur la route, je roulais un peu trop vite, mais j'étais habitué à ce tempo de vie. Et puis, je pensais à ma fille. Je lui avais dit à ce garagiste que si je roulais sans plaque, j'allais avoir des blêmes. Il m'a dit, vous êtes parano, monsieur. Je vous arrangerai ça demain, il y aura plus de problème. Et moi, je l'ai cru avec ma tête de noir, de cas social. C'est dingue quand même. Mon pays d'origine, je le connais même pas. Et franchement, je pense, je parle, je rêve, je respire en français. En français, je pleure, je ris, je crie, je...
Derrière le statut, le vêtement, la couleur de peau, n'est-ce pas qu'on est semblables tous? Les mêmes préoccupations qui suis-je, où vais-je, que n'ai-je, même s'il, même tel. Pour ce pays, comme ceux et celles qu'on fait la guerre, comme ceux et celles qui ne savent pas dire je t'aime, je...
Quand il est arrivé avec sa belle caisse, je me suis dit... Encore un de ces nègres qui va me prendre la tête, mais il était, je dois dire, plutôt courtois. Même franchement, carrément sympa. Je me suis dit que c'était bête de penser comme ça parce que Steve, il avait pas fait l'histoire. Il était juste comme moi, un simple passager de l'Orient Express du destin. Sauf qu'il était noir. Mais ça enlevait rien. J'ai même fait mon travail avec plaisir. Faut dire que c'est rare les clients prévenants, en plus qui vous font rire. Je lui ai dit de repasser le lendemain pour lui visser sa plaque, mais il voulait absolument partir de suite, voir sa fille, je crois. Ils sont très familles, les blagues, vous savez. Vous comprendrez que ça m'a foutu un coup quand j'ai appris que le mec, il était mort sur le coup. Je suis sans doute la dernière personne à avoir ri avec lui, à avoir été cool avec lui, avant qu'il ne...
Derrière le statut, le vêtement, la couleur de peau, n'est-ce pas qu'on est semblables tous? Les mêmes préoccupations qui suis-je, où vais-je, que n'ai-je, même s'il, même tel. Pour ce pays, comme ceux et celles qu'on fait la guerre, comme ceux et celles qui ne savent pas dire je t'aime, je...
Déjà, quand j'étais aux Antilles, ça me saoulait grave de voir ces Noirs et ces Arabes qui foutaient la merde, quoi. Mais c'est pas pour ça que j'ai voulu être flic. C'était une vocation, je crois. La métropole, c'est spécial, mais je m'y suis vite fait. Un bon flic, c'est obligé et ça doit s'adapter. J'ai fait pas mal d'arrestations des mecs méchants et vraiment dangereux, mais le plus étonnant, c'est que c'est à nous que le civil en veut. Bon, c'est vrai qu'il y a des collègues qui sont pas cool, mais c'est comme partout. T'as des gens bien et des fous. Mais ça, va l'expliquer à ce gars dans cette belle voiture qui roule comme un dingue parce qu'il doit l'avoir volé en plus. Il s'est arrêté brusquement, bizarrement, alors je l'ai pris en joue. Et mon collègue qui arrêtait pas de me dire qu'il voulait se faire du bougnoule, alors ça, plus toute la tension, la violence qui règne autour de nous, je me suis dit que j'avais jamais tiré en vrai quand...
Derrière le statut, le vêtement, la couleur de peau, n'est-ce pas qu'on est semblables tous? Les mêmes préoccupations qui suis-je, où vais-je, que n'ai-je, même s'il, même tel. Pour ce pays, comme ceux et celles qu'on fait la guerre, comme ceux et celles qui ne savent pas...
Avez-vous reçu votre autocollant Prudence au volant des amputés de guerre? Apposez-le sur votre voiture, votre motocyclette, votre bateau ou votre motoneige. En fait, là où vous désirez véhiculer le message Prudence au volant. Commandez-le sans frais au 1-800-250-3030 ou en visitant le site amputedeguerre.ca.
Les conducteurs et les amputés de guerre, de concert pour promouvoir la prudence au volant.
Vos émissions préférées sont de retour à Radio Centre-Ville. Au Bel Âge traite des préoccupations des aînés les mardis de 10h à 11h. Tout de suite après, de 11h à 11h30, Je vote pour la science vous informe de l'actualité scientifique. Portrait danse est de retour les jeudis de 13h à 13h30. Découvrez nos nouvelles émissions. En bas, à gauche, fait le tour de l'actualité internationale les mardis de 9h à 10h. Bouffée d'air frais vous parle d'horticulture les mardis de 13h à 14h. Voix francophone, les vendredis de 11h à 11h30, jette un coup d'œil sur l'actualité et la musique francophone. Écoutez-nous au 102,3 FM ou sur notre site radiocentreville.com.
Parce que vraiment jouer.
Parce que j'ai tombé de mon vélo.
On a perdu le championnat.
Ma blonde m'a laissé.
Là, c'est parce que...
Je sais pas pourquoi.
Quand on est triste sans raison, c'est peut-être une dépression. La dépression est une maladie. Consultez masantémentale.gouv.qc.ca. Un message du gouvernement du Québec.
Radio Centre-Ville. Depuis 35 ans, nous mettons l'accent sur le monde de Montréal.
Mmh.
Ils ont demandé des ventilateurs à cause du gaz dans le smelter. On veut de l'eau chaude, on veut aussi un peu de soleil avant la nuit, remonter la cage avant 5 heures. They only throw a gyroscope, that's what I call a silly cause, 'cause I'm only here for the money, stupid. The French Canadians wanted by the mine. Ça fait 50 ans aujourd'hui que les blocs sont ici pour le cuivre. Nous autres un peu plus pour survivre, comme dit l'ièvre qui court la nuit. À Montréal, aux Trois-Rivières, à Québec, y a rien à manger. Le monde est pas content, oh, oh, oh. La misère noire, c'est pas drôle à voir. En ouais, dans le bois, ça presse. Une poche de fleurs, une canne de graisse. Oh, 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 oh. C'était la petite ballonnée des années 1930. Il y aura du gong pour tout le peuple. L'espace de la liberté qui ont dit. Mais tu t'habitues à penser à toi quand la terre gèle en plein été. Ringers ont pas rentré, les cheminées sont arrêtées, qu'on a bien vu de clair ici. Laissons brûler les abattis, la mine en gage, descend en cage, y'a pas de trou plus sombre qu'ici. Open on your knees, come and sing a song for your kind, Copper King. Vive la compagnie. N'aime pas longtemps un homme qui se plaint. Un dernier mot seulement et puis j'efface mon chemin. Le jour où c'est qu'on me trouvera mort, enterrez-moi debout la tête dehors au soleil.
C'était bien sûr Richard Desjardins avec la chanson « Les Fros » que nous avions préparée en introduction à notre sujet d'aujourd'hui. Nous essayons de rejoindre Antoine par téléphone. Antoine est au Chili et il nous avait préparé une chronique sur les 33 mineurs de Copiapo qui ont passé 69 jours de captivité dans les mines. Malheureusement, la communication avec le Chili a rien de facile. Alors, pendant qu'on est en train d'arranger la ligne, je vous mets un petit pont musical. Hein? Cool, ça
marche. Alors, après ce petit délai technique, on est en direct avec Antoine qui est au Chili, qui nous a préparé une chronique sur les 33 mineurs en fait qui étaient plus sûrement à l'origine chiliens dans la mine. Alors on va demander à Maud d'appuyer sur le bouton. Voilà. Bonjour Antoine.
Bon matin.
Bon matin. Alors, désolé de ce dernière minute. Merci beaucoup d'être avec nous.
Ben, ça fait plaisir.
Alors, c'est ta première fois sur En bas à gauche, qui est un peu la suite de Planète Internationale, où on avait écouté plusieurs fois tes chroniques préenregistrées.
Ben, c'est toujours un plaisir de participer à la radio communautaire de Montréal.
Alors, merci d'être avec nous. Et alors, qu'est-ce que tu nous as préparé sur le fameux sujet donc, qui a fait les médias un peu partout à travers le monde, mais comme perspective alternative sur la situation des mineurs qui ont passé 69 jours dans une mine?
C'était un commentaire politique, disons, un peu que je voulais faire à propos de ce qu'on peut voir à la télé et de ce qu'on peut ne pas voir à la télé. Car disons que l'événement des mineurs chiliens a été couvert de manière faramineuse un peu partout dans le monde. C'est un événement médiatique global qui est dû à toute la globalisation des médias. Et c'est étonnant comme on peut voir en direct beaucoup de choses, mais en même temps ne parler de rien, ou souvent ne pas parler de l'essentiel, ou détourner les faits à l'avantage du spectacle et non à l'avantage de la compréhension des événements sociaux et politiques qui se trament derrière une catastrophe et une tragédie comme ça. La première chose, le premier commentaire que je voulais faire à propos de ça, c'est évidemment comment une tragédie ont été tournés en triomphe, en victoire. Évidemment, le succès, on ne va pas le nier, le succès, l'incroyable opération de sauvetage a été réussie avec une intervention des mineurs, du gouvernement, de personnes spécialisées dans le sauvetage, qui a été vraiment, qu'il ne faut pas nier, qui est un événement extraordinaire. Sauf que c'est quand même incroyable que on parle quand même de 33 personnes qui ont passé 3 mois dans le fond d'une mine, dans des conditions absolument inhumaines, et on en fait maintenant aujourd'hui quasiment des héros, et on les applaudit comme c'est quasiment comme si on pensait que eux autres ils l'avaient fait pour la célébrité. La deuxième chose qui est assez étonnante dans cela, c'est que alors que tous les médias du monde ont su comment le gouvernement avait donné de l'importance aux conditions des travailleurs et à leur vie, etc. La même journée, exactement le même jour où les mineurs, les 33 mineurs ont été sortis de la fosse, au Parlement, au Congrès, a été votée une loi qui donne aux compagnies minières étrangères une exemption fiscale qui instaure comme une espèce de nouvel impôt volontaire pour les prochaines années, mais que s'ils acceptent d'avoir de ce nouvel impôt volontaire durant les 3 prochaines années, ils auront une exemption fiscale qui va leur servir entre les années 2014 et 2025. Alors, c'est quand même incroyable que exactement la même journée, le gouvernement ait l'audace d'un côté de sauver la vie à des mineurs, de l'autre côté, donner à vendre les compagnies minières à l'étranger. Et ça, c'est fait dans la même journée. Évidemment, la deuxième nouvelle est restée inconnue autant au Chili qu'à l'étranger. Évidemment aussi, il y a plusieurs choses qu'on a vues durant ces 2 journées de direct mondial pour le sauvetage des travailleurs qui se retrouvaient sous terre, à 700 mètres sous terre. Et là, on a commencé à parler de chacun d'eux à chaque fois qu'ils sortaient. Et les journalistes connaissaient leur vie entière. Ils savaient tous les détails de leur vie, de leurs détails, le nombre d'enfants, ce qu'ils avaient fait avant, etc., leur salaire. Et ensuite, même, on est allé dans les jours où ils ont sorti de l'hôpital, directement chez eux, dans leur cuisine, dans leur chambre à coucher, pour voir comment ils fêtaient leur miracle et leur sauvetage. Eh bien, c'est quand même assez étonnant qu'il y ait des détails qui sont passés totalement inconnus de la part du grand public. Entre autres, le dernier, le fameux capitaine, le dernier mineur qui est sorti, eh bien, on a, en général, dans les médias, su qu'il était orphelin, et qu'il était un travailleur qui avait travaillé très fort pour faire vivre sa famille, etc. Puis ce qu'on n'a jamais dit, à l'inverse, c'est que pourquoi il est orphelin, qu'est arrivé à son père? Eh bien, son père et son oncle sont deux victimes de la dictature au Chili, ce sont deux exécutés politiques. Alors, c'est incroyable comment, ici, au Chili, c'est un détail qui a été inconnu. La plupart des personnes à qui j'en parle ne le savent même pas. Alors, on voit que, comme les médias, encore aujourd'hui, ils n'osent pas parler de l'histoire réelle du monde monde du travail, l'histoire réelle des travailleurs qui a été marquée par des événements si atroces que la dictature et la répression politique, et qui me démontre un peu les conditions dans lesquelles vivent les mineurs ont toujours été difficiles au Chili, et ça depuis 30 ans, et ça n'a pas changé. Et un autre détail aussi, puis ça c'est sur la question, peut-être qu'on pourrait parler d'un autre mineur très connu, qui était ce fameux travailleur qui était au centre d'un triangle amoureux construit par la presse qui s'est emparée de dire que sa maîtresse était venue le chercher au lieu de sa femme, et puis qu'il était au centre d'un triangle amoureux, puis bon, qu'il avait triché sa femme, etc. Ce qu'on n'a pas dit, c'est que ce travailleur-là ne vivait déjà plus avec sa femme depuis plus de 5 ans, et qu'il vivait maintenant avec sa deuxième conjointe. Alors, pourquoi dire maîtresse? Pourquoi pas dire conjointe? Pourquoi ce traitement aux femmes des mineurs aussi qui a été fait? Puis pourquoi ne pas dire non plus qu'au Chili, la loi du divorce existe seulement depuis 4 ans? Ça fait depuis 4 ans seulement qu'on peut se divorcer légalement au Chili, imaginez-vous. Alors, ça, c'est des choses qu'on ne dit pas, et comment que cette loi est tellement difficile à appliquer que la plupart des gens dans les milieux populaires n'ont pas l'argent pour payer des avocats et tout simplement ne se divorcent pas au Chili. Les gens ne se divorcent pas, même s'ils changent de compagne, de conjointe et de conjoint, évidemment, et même si ça entraîne toute une série de problèmes administratifs, ben ça, c'est la vie qui se passe dans les milieux populaires, et c'est tout à fait normal parce que c'est une situation qui se répète. Et c'est des choses qui ont été systématiquement négligé ou peu analysé. Alors, c'est un petit peu de ça que je voulais parler.
Mais ici, on n'a pas eu nécessairement tous les détails savoureux de la vie des mineurs. Par exemple, un élément qui était intéressant, c'était le fait de voir à quel point au niveau, pas simplement au niveau du Chili, mais au niveau international, on a eu le droit à voir le monde entier en haleine avec les caméras en direct et les retransmissions sur les chaînes internationales de ce qui était filmé au Chili. Mais aussi, peut-être le seul élément critique qu'on a pu entendre, c'était le fait que les mineurs ont dit c'était qu'il y avait demandé à sortir de la mine, et que c'est donc bien la négligence des patrons de la mine qui avait causé toute la situation. Est-ce que c'est un élément qui a été perçu médiatiquement au Chili?
Évidemment, je crois que tous les événements concernant cet événement-là vont être un peu plus couverts. Évidemment, ça faudrait être totalement insensé pour ne pas défendre les conditions des travailleurs qui ont été dans cette mine-là. Mais ce qui est là, évidemment, quand ce n'est pas un spectacle, ben on n'en parle pas. Puis on ne dit pas qu'au Chili, il y a autant de mineurs qui sont morts depuis le début de l'année qu'il y a des mineurs qui ont été sauvés durant cet événement-là. Hein, il y a 32 mineurs qui sont décédés sur le chantier, sur leur travail, dans l'exécution de leur travail depuis le début de l'année 2010 au Chili. Et évidemment, à chaque fois qu'un travailleur meurt des conditions de travail insécuritaires, ben ça, on n'en parle pas, évidemment, parce que ça ne fait pas un spectacle. Mais quand c'est un spectacle, quand c'est un événement un peu plus médiatique, ben là, évidemment, les médias s'empressent de se faire les grandes défenses des travailleurs. Effectivement, ce que tu dis, Blandine, est vrai. Les travailleurs avaient demandé et puis on sait que cette compagnie-là a été accusée de négligence par le passé. Elle était déjà en cours avant cet événement-là, parce que il y a un travailleur qui avait perdu l'usage de ses jambes qui en ce moment était à l'époque de l'effondrement de la mine, était déjà dans les procédures judiciaires contre la mine pour négligence. Et puis les mêmes propriétaires qui ne se fiaient qu'à leur profit et à leurs actions, n'ont jamais vraiment perçu les dangers et voulu améliorer les conditions de la mine. Et puis, il ne faut pas seulement accuser, évidemment, les propriétaires de cette mine-là, parce qu'au Chili, c'est vraiment ce sont des conditions de travail dans le secteur minier qui sont appuyées part et qui ont l'appui de l'État. Il faut aussi savoir que le Sermiak Yomin, qui est un peu l'organisme régulateur des mines privées au Chili, qui doit s'assurer que toutes les normes sont respectées, avait visité la mine au cours de l'année 2009, et puis ils avaient soumis une série d'obligations. Ils avaient même fermé la mine temporairement. Ils avaient ensuite obligé les propriétaires à faire une série de modifications. Ils ont permis la réouverture de la mine San José en disant avec la promesse que ses patrons allaient améliorer la sécurité, faire des mesures de sécurité, entre autres une sortie de secours, améliorer les conduites d'aération et faire en sorte qu'il y ait une sortie de secours. Et évidemment, cette mine-là, elle a continué à œuvrer durant toute l'année 2010 sans qu'absolument aucun travaux n'ait été commencé. Alors, on voit qu'il y a vraiment une complicité également des pouvoirs publics, c'est-à-dire qu'ils ferment les yeux et ils ne veulent pas faire en sorte de vraiment faire respecter les mesures de sécurité. Et c'est un petit peu normal quand on sait que des inspecteurs qui doivent s'assurer la norme des normes dans les mines. Ils étaient à peu près pour toute la région du nord du Chili, là sont moins d'une dizaine pour s'assurer de toute le donc imaginez, on parle de milliers ici de chantiers là qui sont au Chili. C'est Chili, un pays où il y a une industrie minière très très grande. Donc évidemment, ça c'est des choses comme tu le dis, on veut pas en parler maintenant. Les médias, je dirais pas qu'ils n'en parlent pas tout à fait. Dans le cas de la mine San José, ici, du moins au Chili, les médias, ils ont été accusés de tout. Les propriétaires, ils sont poursuivis. Puis je dirais qu'en les médias accusent cette mine-là, mais ils vont pas à la mine voisine qui ont exactement les mêmes conditions. Ils ne parlent pas de ça. Ils parlent pas non plus que la mine qui a les meilleurs standards de sécurité, c'est la mine Codelco qui est de propriété étatique. Et sans Codelco, il n'y a pas de sauvetage à la mine San José. Et souvent, ça non plus, on l'a pas dit. C'est-à-dire que qu'est-ce qui a permis au gouvernement d'intervenir? Le gouvernement a pu utiliser la compagnie publique et Codelco pour faire le sauvetage et dépenser des millions, parce que ça coûtait des millions de dollars, là, faire tout ça, le forage, les nacelles, les médecins, les psychologues, les ingénieurs qui ont travaillé jour et nuit pour ça. Eh bien, ça a été tout payé par la poche, et c'est normal que cela soit par Codelco. Mais imaginez si cette compagnie-là avait été privatisés ou s'ils avaient des comptes à rendre à leurs actionnaires, évidemment, ils n'auraient jamais accepté une compagnie privée de dépenser autant d'argent pour sauver la vie de travailleurs.
Bien, merci beaucoup, Antoine, pour toutes ces informations. Est-ce que tu aurais une source d'information alternative en français ou en espagnol à nous suggérer sur Internet? Peut-être pas nécessairement.
Il y a beaucoup de sources. Si vous allez sur voltaire.net, vous allez avoir en général, ou si vous parlez espagnol, rebellion.org, vous allez sûrement avoir plusieurs articles sur l'Amérique latine en général et ces questions-là.
Désolé pour la question surprise. Mais merci beaucoup pour ces informations.
La prochaine fois, je préparerai.
C'est correct. Fait qu'on te retrouve, on espère, dans quelques semaines pour d'autres chroniques avec des nouvelles d'Amérique du Sud. Et merci beaucoup pour cette chronique. On va prendre une petite pause musicale avant la suite et fin de En bas à gauche.
Au revoir.
Au revoir.
Sube a nacer conmigo, hermano. Dame la mano desde la profunda zona de tu dolor diseminado. No volverás del fondo de las rocas. No volverás del tiempo subterráneo. No volverás tu voz endurecida. no volverán tus ojos taladrados. Yo vengo a hablar por vuestra boca muerta, a través de la tierra junto a todos los silenciosos labios derramados. Y desde el fondo habladme toda esta larga noche, como si yo estuviera con vosotros anclado. Contadme todo, cadena a cadena, eslabón a eslabón y paso a paso. Afidad los cuchillos que guardestéis, ponedlos en mi pecho y en mi mano, como un río de rayos amarillos, como un río de tigres enterrados. Y dejadme llorar horas, días, años, edades ciegas, siglos estelares. Dadme el silencio, el agua, la esperanza. Dadme la lucha, el hierro, los volcanes. Apegadme los cuerpos como imanes. Acudid a mis venas y a mi boca. Hablad por mis palabras y mi sangre.
Chanson classique Non nos moveran pour conclure cette chronique sur le Chili. Et c'est presque la fin d'En bas à gauche. Il nous reste quelques minutes pour votre fameux et tant attendu anti-hebdo, le calendrier des gens qui ont jeté leur télévision par la fenêtre. Alors ce soir, ça commence avec les sessions de l'Université populaire sur l'économie. Ça va être au bar populaire. C'est pas mal là tous les mardis au 6584 Saint-Laurent, Montréal. Un bar très sympathique où on n'est pas obligé de consommer d'alcool et où on peut amener sa nourriture. Alors la thématique de ce soir, c'est monnaie, crédit et capital financier. L'objectif de la séance est dans un premier temps de comprendre le rôle et la nature de la monnaie dans l'économie capitaliste à partir du paradigme du monnayage. Seront examinées les caractéristiques sociales de la monnaie comme institution ainsi que sa production dans le cadre de la relation des crédits bancaires. Alors vous pouvez avoir plus de détails sur agendamilitant.info qui annonce cet événement. Et ce sera avec la participation de Éric Pinault, professeur à l'Université du Québec à Montréal. Donc, à ne pas manquer, à 18h30, 6584 Saint-Laurent au Bar Populaire. Demain soir, le mercredi 3 novembre, c'est le spectacle bénéfice pour les arrêtés du G20, un des nombreux spectacles bénéfices qu'on vous annoncera sûrement pendant les deux prochaines années, puisqu'il faut des milliers de dollars pour payer les frais juridiques et de déplacement de toutes les personnes qui ont encore des causes devant les cours et les tribunaux de Toronto. Alors, 10$ en pré-vente, 13$ à la porte, c'est au Foufoune électrique. Vous pouvez acheter vos billets au Cégep du Vieux-Montréal ou à l'Université du Québec à Montréal. Et avoir plus d'informations sur le site web rac20.wordpress.com. Alors, il va y avoir mise en demeure, l'Anthrope, Sky Jam Project, des témoignages des personnes arrêtées et des VJ. Alors, porte à 19h, spectacle à 20h, Foufoune électrique, mercredi soir. Vendredi 5 novembre, dans le cadre des rendez-vous de la Maison Normand Béthune, sur la rue Frontenac, au 19-18, une soirée, la Révolution d'octobre, 93 ans plus tard. Donc, une rétrospective avec analyse maoïste sur la Révolution d'octobre 17. Donc ça va être à 19h. Pour avoir plus d'informations, maisonnormandbetune.ca. Samedi 6 novembre, devant les bureaux de la Chambre de commerce française du Canada, une mobilisation proposée pour soutenir les mouvements de lutte en France, une invitation de l'Union communiste libertaire. Ça va être un rendez-vous au 18-19 René Lévesque Ouest, métro Guy Concordia à 14h30. Donc, les gouvernements profitent de la crise économique pour couper dans tous les services publics et abaisser les conditions de travail. C'est le cas ici et là-bas. Donc, une occasion de faire le lien avec les luttes au niveau international. www.causecommune.net pour avoir plus d'informations sur ce rendez-vous. Également, une proposition d'assemblée publique dimanche à 13h, le 7 novembre, au Centre Saint-Pierre, 1212 rue Panet, pour avoir plus d'informations cette fois-ci sur la campagne contre le budget du gouvernement libéral actuel. Donc un budget, on le rappelle, qui officialise la privatisation du système de santé et d'autres coupures dans tous les services publics, dont notamment l'éducation. Alors c'est ce qui conclut cette édition de l'Anti-Hebdo et également cette édition de En bas à gauche. Et si vous voulez avoir plus d'informations, vous voulez faire des commentaires, vous voulez nous écrire, vous pouvez aller voir notre magnifique blog dont Maud va nous parler. Non? Ah, ok. Alors, en bas à gauche, .wordpress.com, c'est le blog sur lequel vous pouvez retrouver nos chroniques. Alors, c'est des chroniques de la résistance, les chroniques culturelles, les fameux fais le don toi-même. On vous rappelle que vous pouvez apprendre à faire un babillard et d'autres choses. Vous pouvez aussi nous écrire à en bas à gauche à riseup.net, si je ne me trompe pas.
Si vous avez des propositions, de la musique, vous voulez qu'on passe des chansons que vous enregistrez vous-même, vous êtes des jeunes artistes qui voulez vous faire connaître, vous avez des paroles quelque peu engagées avec une conscience sociale, on serait bien heureuse de les recevoir pour les diffuser en ondes le matin.
Et aussi, si vous avez des événements annoncés, des projets à Montréal ou ailleurs que vous voulez nous partager, ce sera avec plaisir puisque c'est le but d'en bas à gauche d'être un espace pour donner une voix alternative. Alors, si vous voulez aussi trouver plus d'événements à Montréal, je vous rappelle agendamilitant.info, mais aussi le CEMAC, Centre des médias alternatifs du Québec.net, où vous pouvez retrouver toute une série d'événements qu'on annonce ici à la radio, donc notamment les événements à Pointe-Saint-Charles ce soir, mais aussi ceux que je vous ai mentionnés et bien d'autres qu'on n'a pas le temps de vous mentionner. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On vous laisse pour la suite de la programmation sur les ondes de Radio Centre-Ville avec le Bel Âge. Vous écoutez le 102.3 FM. Il est maintenant presque 10 heures.
Le 13 novembre, au Théâtre Maisonneuve, le Festival du Monde Arabe de Montréal présente « Je me souviens 2.0 ». Dabke Gigafusion. Rencontre inédite entre deux mémoires qui s'apprivoisent mutuellement lors d'une fête. www.festivalara.com.
Pour être bien informé sur ce qui se passe en Haïti et partout dans le monde, branchez-vous sur Magazine Créole, 102.3 FM, Radio Centre-Ville, tous les dimanches, 8h PM.
Magazine Créole, une émission chic, chic, choc. Nouvelles locales, nouvelles nationales, nouvelles d'Haïti et tous les points chauds qui ont marqué l'actualité avec Robinson Élisée et Reynold Alexandre.
Amis, camarades, rendez-vous cassé.
Ici Yves Lambert, le vendredi 19 novembre, je serai au Club Soda, en compagnie de Pascal Picard-Ben, les Lost Finger, Papa Groove, Antoine Graton, So Cold et plusieurs autres pour la soirée bénéfice Jeunes Musiciens du Monde. Bien disponible sur jeunesmusiciensdumonde.org, une présentation de la Capital Groupe Financier.
Au Québec, le transport est la première source d'émissions de gaz à effet de serre. Visitez la station-service Cocktail Transport pour de bonnes idées et des prix à gagner. Rendez-vous au www.équiterre.org/cocktailtransport.
Salsa, reggae, compa, zouk, lambada, bossa nova, fado, hip-hop, ragamuffin, mala, tango, samba, merengue, bachata, jazz, chansonnette française, soukous, rock francophone, funk, blues, techno, drum and bass. toute la musique du monde sur le 102,3 FM. Radio Centre-Ville, nous mettons l'accent sur le monde de Montréal.